VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil pour vous présenter cette nouvelle édition du lundi 6 juin 2016 à la une ce soir.
Au Kenya, au moins 2 morts dans les manifestations de l'opposition brutalement dispersées par la police à Kisumu.
Les procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et le putsch de septembre au Burkina Faso auront lieu cette année.
En Syrie, les forces du régime ont encore progressé dans la province de Raqqa grâce à l'aviation russe.
En magazine, la progression de la grippe aviaire inquiète les éleveurs au Cameroun.
Nous avons reçu des instructions provenant du ministre que rien ne sort, rien n'a. Donc rien ne sort de la région de l'ouest en direction de Yaoundé.
Le mois saint musulman, le Ramadan, a commencé ce lundi dans plusieurs pays, dont le Mali.
La soumission et l'entraide entre nous-mêmes, chercher la bénédiction des uns des autres. Les gens cherchent Dieu très loin. Dieu, c'est notre voisin, c'est toi, c'est moi.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Burkina Faso, la justice militaire a donné un éclairage sur les dossiers qui sont devant elle. Il s'agit notamment de l'affaire du putsch de septembre et de l'affaire Thomas Sankara, qui pourront être jugées cette année. Bagassi Koura.
Oui, et c'est la grosse information de cette conférence de presse de la justice militaire. Le procès du putsch de septembre dernier, celui concernant l'assassinat de Thomas Sankara en octobre 1987, auront lieu avant la fin de cette année si les appels devant la Cour de cassation ne freinent pas les procédures. C'est l'information donnée cet après-midi par Alioune Zanré, le nouveau commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Ouagadougou. Il est également revenu sur le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Le président du Parlement ivoirien, la justice burkinabé, lui reproche une implication dans le putsch de septembre dernier. Le mandat d'arrêt lancé contre lui en janvier dernier a été annulé il y a quelques semaines par la Cour de cassation pour vice de procédure. Mais ce mandat ne sera pas relancé, a dit le commissaire du gouvernement. Pour le cas Soro, la justice burkinabé opte désormais pour la dénonciation, un acte qui consiste à exposer les faits aux autorités ivoiriennes et demander que celles-ci engagent des procédures contre Guillaume Soro.
Merci Bagassi. Au Niger, le ministre de la Défense, Assoumi Massoudou, n'a pas mâché ses mots lors de sa visite aux soldats de la garnison de Bosso. Il faudra continuer à se battre. Il faudra que cet affront soit lavé. Il faut que ce soit vengé. Vendredi, 30 soldats de l'armée nigérienne ont été tués dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram.
Au Cameroun, après la détection d'un premier foyer de grippe aviaire en mai près de Yaoundé, le virus H5N1 s'est propagé dans au moins 2 autres régions du pays. Des cas ont été détectés à Bafoussam, dans l'ouest, et à Ebolova, dans le sud. Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement, l'a confirmé à l'AFP. Selon le quotidien d'État, Cameroon Tribune, un 3e foyer aurait été découvert à Bayangam, toujours dans l'ouest. Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie magazine de cette édition.
La justice congolaise a de nouveau repoussé aujourd'hui la réouverture du procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements ayant opposé ces communautés au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, en 2013. Accédant à une demande des parties civiles, la cour d'appel de Lubumbashi a accordé 3 semaines supplémentaires pour faire venir certaines victimes et leurs témoins à l'aide de la MONUSCO. L'audience a été reportée au 27 juin.
Au Kenya, une manifestation de l'opposition contre la commission électorale a mal tourné à Kisumu, dans l'ouest du pays. L'intervention de la police a fait 2 morts et 6 blessés. Eric Manirakiza.
La Croix-Rouge et des témoins affirment que ces personnes ont été victimes des tirs de la police. L'opposition manifestait pour réclamer la dissolution de la commission électorale. Elle estime que la commission est partiale et ne saurait garantir l'équité de la présidentielle d'août 2017, qui devrait opposer une nouvelle fois le président sortant Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, le chef de l'opposition. Selon l'AFP, la police anti-émeute a affronté toujours des manifestants dans le bidonville de Kondele, en périphérie de Kisumu. Le 23 mai, 3 personnes ont été tuées dans les mêmes circonstances. Depuis le 25 avril, l'opposition et la société civile ont intensifié les manifestations qu'elles avaient suspendues le 25 mai pour donner une chance au dialogue avec le gouvernement. Face à l'échec de ce dialogue, La pression de la rue a repris. La haute cour kényane vient de réconforter cette option en rejetant la demande des députés de la majorité d'interdire ces manifestations. Après cette décision, des manifestants ont envahi Uhuru Park dans le centre de Nairobi avant de se diriger vers le siège de la commission électorale en compagnie des leaders de l'opposition.
En Somalie, 5 soldats de la force de l'Union africaine, la MISOM, ont été interpellés hier dans la capitale somalienne, Mogadiscio, pour leur rôle présumé dans la vente illégale de matériel militaire. Dans un communiqué, la MISOM précise que les 5 soldats, dont la nationalité n'a pas été précisée, que ces soldats ont été interpellés en possession de carburant et de sacs de sable.
Au Burundi, dans la province de Muramvya, les 11 élèves incarcérés pour avoir gribouillé la photo du président Pierre Nkurunziza dans des livres de classe restent en prison après une réunion infructueuse entre leurs parents et les autorités. Il faut attendre la décision de la justice, a précisé le gouverneur Emmanuel Niyungeko. Nous y reviendrons en partie magazine.
Toujours au Burundi, le journaliste Egide Ndasigaya de la radio Bonesha FM a été arrêté par la police hier dimanche dans la province de Cibitoke. Il a été remis au service national de renseignement, les services secrets burundais qui dépendent de la présidence.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a embarqué aujourd'hui pour Londres à cause d'une otite persistante. Malgré l'annulation de plusieurs déplacements récemment, le chef de l'État nigérian s'est voulu rassurant. Il s'agit d'une consultation à titre purement préventif.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, l'armée syrienne soutenue par l'aviation russe et les combattants arabo-kurdes appuyés par les États-Unis opéraient séparément aujourd'hui pour prendre en étau le groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Jacques Aristide.
Les forces du régime avancent vers le sud-est et se trouvent à 30 km de l'aéroport de Tabqa et à 24 km du lac Assad, un large réservoir d'eau dans la vallée de l'Euphrate, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tabqa est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqqa, la capitale de facto du califat autoproclamé de l'EI. De l'autre côté, la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes est à 60 km au nord et n'avance plus vers le sud car son objectif prioritaire est la prise de Minbej, une localité stratégique pour les Kurdes. En ce premier jour du Ramadan, des raids contre un marché dans l'est de la Syrie ont causé la mort d'au moins 17 civils. L'EI, qui compte entre 19 et 25 000 combattants en Syrie et en Irak, selon les estimations américaines, doit également résister à une offensive d'envergure en Irak, où les forces gouvernementales cherchent à s'emparer de sa place forte de Fallujah.
À Fallujah, justement, la population civile vit des heures difficiles. Selon le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, les extrémistes islamiques abattent carrément les civils qui tentent de fuir les combats. L'ONG rapporte le cas de 3 personnes qui essayaient de traverser l'Euphrate et sont devenues la cible des groupes armés de l'opposition irakienne. Une estimation des Nations Unies fait état d'environ 50 000 civils pris entre deux feux à Fallujah. Plusieurs d'entre eux, y compris des enfants, sont aussi morts noyés en traversant le fleuve, large de 300 mètres. Le NRC, de son côté, indique que moins de 3 000 familles ont réussi à fuir au début de l'offensive contre les djihadistes.
Début à Pékin du dialogue stratégique annuel entre les États-Unis et la Chine. À cette occasion, le secrétaire d'État John Kerry a exhorté la Chine et ses voisins à trouver une solution diplomatique à leurs différents territoriaux en mer de Chine. Timothée Donangmai.
Le chef de la diplomatie américaine faisait allusion à l'inquiétude croissante des pays de la région du fait du déploiement militaire chinois sur des îlots et atolls inoccupés de la mer de Chine méridionale, dont Taïwan, le Vietnam, les Philippines, Brunei et l'Indonésie revendiquent la souveraineté. Nous ne sommes pas partis à ces disputes. Nous n'avons pris position par rapport à aucune des revendications, aucun des protagonistes. Notre seule position est de dire, ne résolvons pas cela par une action unilatérale, mais par le droit, la diplomatie, les négociations. Le secrétaire d'État John Kerry a fait état ce lundi de nouveaux jalons dans la coopération entre Pékin et Washington dans divers domaines, notamment le changement climatique, les urgences mondiales de santé et la prolifération nucléaire. Pour sa part, le président chinois Xi Jinping a souligné qu'il est essentiel pour les États-Unis et la Chine de gérer leurs différends de manière pragmatique et constructive.
L'agence onusienne s'occupant des questions nucléaires soupçonne la Corée du Nord d'avoir réactivé une usine de retraitement de plutonium. Dans une déclaration faite aujourd'hui, Yukiya Amano, secrétaire général de l'AIEA, a mentionné des indices livrés par des images satellites montrant l'expansion des infrastructures d'enrichissement et des activités liées au retraitement du plutonium sur le complexe de Yongbyon. Selon M. Amano, que cite l'AFP, ce serait en vue de fabriquer des armes nucléaires. Des experts américains étaient récemment parvenus aux mêmes conclusions.
L'Euro 2016, la Coupe d'Europe des Nations, démarre en France dans 4 jours et la sécurité des athlètes et du public demeure une source de préoccupation. C'est dans ce contexte que les autorités ont annoncé l'arrestation récemment en Ukraine d'un Français soupçonné d'avoir voulu commettre des attentats pendant la compétition. Cet homme de 25 ans était en possession d'un arsenal de guerre et prévoyait 15 attentats terroristes en France à la veille et pendant le championnat. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Une trentaine de pays, dont l'Afrique du Sud et la Somalie, ont exécuté hier le premier traité mondial adopté en 2009 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale. Selon la FAO, cet accord permettra de garantir une pêche durable capable de nourrir le monde. Les pays signataires devront détecter la pêche illicite, empêcher le déchargement, la vente du poisson pêché illégalement, mais aussi assurer le partage d'informations sur les navires suspects à l'échelle mondiale. L'Algérie a décidé de revoir son système de retraite pour renforcer les finances publiques, fragilisées jusque-là par une très forte baisse de ses revenus pétroliers. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires sociaux, dont le patronat et la centrale syndicale, ont convenu de supprimer le départ à la retraite sans condition d'âge, mais en maintenant la limite du départ à 60 ans. Enfin, l'Arabie Saoudite en phase de diversifier son économie dépendant essentiellement du pétrole. Le programme de transformation nationale pour la vision 2030 envisage à constituer un fonds d'investissement doté de 2 000 milliards de dollars américains, le plus grand au monde. Ce plan prévoit aussi la vente d'au moins 5% des actions du géant pétrolier Public Saudi Aramco pour alimenter le fonds.
L'actualité sportive, tout de suite à Nicolas, tu m'impressionnes. Et Nicolas Pinot, bonsoir.
Bonsoir, chérubin.
Alors, parlons du tour cycliste de RDC, suspendu.
La direction de la course a décidé l'annulation de plusieurs étapes du quatrième tour cycliste. Il s'agit des étapes de Kindu, de Goma, de Kolwezi, Likasi et Likasi-Lubumbashi. Cela fait suite au mauvais temps observé ce matin à Kindu, qui n'a pas permis l'atterrissage du vol régulier de Congo Airways, qui assurait le transfert aérien entre Kisangani et Kindu. La course va donc se poursuivre dans la partie ouest de la RDC, à savoir le Congo central, Kinshasa et le Kwango. La seconde étape partira donc demain de Kimpese vers Kisantu et les coureurs vont rejoindre Kinshasa le 8 pour la quatrième étape avant de se rendre dans la province de Kwango pour la prochaine étape. La clôture de la course est le dimanche 12 juin avec un circuit fermé sur Kinshasa.
Ballon rond, Copa América ici aux États-Unis.
Et le Mexique qui a consolidé son statut de sérieux outsider dans la Copa América en dominant 3-1 l'Uruguay. Privé de sa star Luis Suarez. Suarez, vous le savez, est touché à une cuisse depuis la finale de la Coupe du Roi, remportée avec le FC Barcelone. Et à suivre ce lundi, Panama-Bolivie et surtout un explosif Argentine-Chili.
Euro 2016 en France, Nico.
Et la préparation qui se poursuit. L'Espagne qui dispute son dernier match de préparation ce soir contre la Géorgie. Un ultime rodage que l'équipe double championne d'Europe en titre aborde enfin en complet avec l'intégration de tous ceux qui ont joué la Ligue des Champions. La Roja monte en puissance avec 2 victoires lors des 2 précédents matchs. 3-1 contre la Bosnie et 6-1 contre la Corée du Sud. Et petite rectification, le match c'est demain soir.
Et nous avons 25 secondes pour parler de la NBA, championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Golden State qui a dominé pour la 2e fois en 3 jours Cleveland de LeBron James. Les Cavaliers ont été battus 77-110 dans ce 2e match de la finale à Oakland. Les Warriors, vainqueurs du premier match, mènent déjà 2-0 de cette finale qui se dispute au meilleur des 7 matchs.
Donc on attend de voir ce qui va se passer à Cleveland. Merci Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Moragibourg et Chérubin, Gaby Dorsil, toujours en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour et première escale ce soir, Gaby, le Cameroun.
Oui Claire, les responsables camerounais ont annoncé une forte mortalité de volailles dans le pays. Après Yaoundé au centre, de nouveaux cas de grippe aviaire ont été déclarés à Ebolova dans le sud et Bafoussam dans l'ouest. Plus de 60 000 poulets ont déjà été tués depuis le 22 mai après la découverte du virus au complexe agricole de Vogbeti, près de Yaoundé, la capitale. Écoutons le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonga Augustin, le virus a été déclaré dans deux fermes dans lesquelles plus de 2000 volailles ont été déclarées mortes. Awafonga Augustin annonce que le reste du cheptel sera abattu, tandis que l'accès dans les zones infectées est désormais interdit. Il annonce certaines mesures déjà prises pour éviter la propagation de ces virus.
Nous avons reçu des instructions provenant du ministre que rien ne sort, rien n'entre. Donc rien ne sort de la région de l'ouest en direction de Yaoundé. Et du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale, du côté de l'extrême nord et même du côté du Tchad. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous protéger et pour protéger ces marchés pour qu'il n'y a pas un bouleversement négatif sur le terrain.
Plus de 60% des volailles au Cameroun sont produites à Bafoussam. Le docteur Idrissou Babetek, délégué régional d'élevage de l'Ouest Cameroun, annonce la désinfectation de tous les poulaillers et marchés de poulets.
Nous faisons de la sensibilisation au niveau des fermiers pour qu'ils appliquent strictement les mesures de biosécurité. Nous avons pris des mesures pour interdire tout mouvement de volailles. Nous avons des agents sur le terrain qui sillonnent les fermes quotidiennement.
Les premiers cas ont été déclarés le 22 mai à Yaoundé. Pour éviter la propagation de ces virus, les pays voisins tels que le Gabon et la Guinée ont interdit la vente des volailles camerounais dans leur territoire. Après la découverte de ce virus, les prix ont chuté de 70%. Et aujourd'hui, les Camerounais qui autrefois ne pouvaient s'en procurer, comme Pierre Tagné, en trouvent leurs avantages.
Je mange sans problème. Même s'il y avait même le poulet malade, toi tu vas savoir ça comment. Puisque nous, on paye le poulet, on mange, on prépare, on met ça au feu. Hein? Dès que ça chauffe déjà, plus de 100 degrés, même les micros vont mourir, on mange, tout est cher au marché. Mais le poulet est plus moins cher par rapport aux autres viandes.
Les derniers cas de grippe aviaire ont été déclarés au Cameroun en 2008 avec environ 100 volailles mortes. Cette présente épidémie est la plus mortelle avec plus de 60 000 poulets abattus et 100 personnes suivies dans les hôpitaux pour avoir été en contact direct avec les poulets infectés. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Le Mali, à l'instar de nombreux pays musulmans, a débuté le mois de Ramadan ce lundi 6 juin. Ce mois saint de la religion musulmane, qui doit être un mois de solidarité, d'entraide et de communion, est pour certains le mois le plus difficile. Cela à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. Kassim Traoré a fait un tour dans certains marchés de Bamako.
Ce lundi 6 juin 2016 est le début du mois de Ramadan. Il est le 9e mois lunaire. Mais pour débuter le jeûne, le fidèle musulman doit s'assurer de l'apparition de la lune. Cette année, l'annonce de l'observation de la lune a été faite très tard dans la nuit.
Dans les normes, on regarde peut-être vers le 19h-18h, mais on nous a informé jusqu'à 2h du matin. Bon, à propos de ça, je ne suis pas trop satisfait. Je suis en jeûne. Parce que comme dire qu'on a appelé la lune, j'étais prêt pour le jeûne. Quoi.
Conséquence de cette observation tardive de la lune, certains n'ont pu gêner, comme Al-Gassimou Bari Tayer.
Je me suis réveillé matin, j'ai entendu à Karem, je n'étais pas prêt, je ne suis pas en jeûne.
Les jeunes chez les musulmans recommandent certaines restrictions, mais qui sont synonymes de partage.
La soumission et l'entraide entre nous-mêmes, chercher la bénédiction des uns des autres. Les gens cherchent Dieu très loin. Dieu, c'est notre voisin, c'est toi, c'est moi. Nous essayons de compléter compliquer les choses en nous rendant les uns les autres la vie plus chère. Je pense que c'est on passe un tout petit peu à côté de l'objectif même du mois de Ramadan.
Dans certains marchés de Bamako, les prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur.
Non, le prix est augmenté, très augmenté même. Ça aussi, les commerçants, ils ont là à nous tirer. Même le sucre là, ils ont augmenté. Avant, ce n'était pas 500 et puis 550, mais actuellement, ils ont augmenté ça aussi. Donc, il faut qu'on voit aussi ensemble aussi à discuter. Ils n'ont qu'à diminuer pour qu'on puisse acheter ces trucs-là.
J'ai constaté que tout est cher, quoi. L'oignon, disons, la viande, l'huile, etc., etc. Tout est devenu intouchable.
Au niveau de notre boutique, j'ai remarqué qu'ils avaient augmenté les prix. Mais il y avait les contrôleurs de l'État qui ont passé, qui ont aperçu ça. Ils ont convoqué, ils ont fermé la boutique et convoqué ces gens-là. Mais le contrôle ne se fait pas partout, dans tous les mêmes endroits, normalement.
Le mois de Ramadan au Mali est devenu le mois le plus cher, alors que ça devrait être le contraire. Tout cela se passe au vu eux aussi du gouvernement qui devrait fixer de commun accord les prix des denrées de première nécessité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burundi, les 11 élèves âgés entre 13 et 19 ans du lycée de Muramvya, accusés d'outrage au chef de l'État et emprisonnés, seront privés de liberté le temps que la justice se prononce sur leur cas. Il y a une semaine, ces élèves du secondaire avaient gribouillé les photos du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. Les parents ont demandé leur libération car aucune sanction n'est prévue par la loi burundaise dans de tels cas. Plus de 300 autres élèves avaient été renvoyés il y a plus d'une semaine pour la même raison dans la province de Bujumbura. Nous retrouvons à Bujumbura, la capitale, Christophe Nkurunziza.
Dans la grande salle des spectacles du lycée de Muramvya au centre du Burundi, le gouverneur de la province, Emmanuel Niyondiko, le commissaire régional de la police, le directeur du lycée et les représentants des enfants qui étaient en réunion pour trouver une solution aux 11 enfants emprisonnés pour gribouillage de la photo du président Pierre Nkurunziza se sont séparés sans trouver un consensus. Pour la maman d'un enfant qui est en 9e année, il faut que ses enfants soient libérés.
Les bouquins circulaient dans trois classes du même établissement. Normalement, tous les élèves devraient être punis ensemble. Je ne peux pas comprendre que ces livres soient écrits sur le nom d'un seul enfant. Ensuite, il n'y a pas de preuves palpables. On aurait pointé le doigt sur les vrais coupables. Nous demandons que nos enfants soient libérés et aillent passer les examens.
Et pour le gouverneur de la province de Muramvya, Emmanuel Niyondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après avoir échangé sur cette situation, nous avons constaté quand même qu'il y a eu quelque part une défaillance de la part des élèves. Ils ont commis une faute qu'on qualifie de grave. Seulement, ce que je vous dirais, c'est que la province de Muramvya est une province particulière avant l'histoire du pays. C'est une province qui était la capitale royale, ce qui montre que la population de Muramvya doit se souvenir de l'importance, de la valeur d'un roi. Nous sommes convaincus que, après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire, le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, nous avons constaté que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent caresser les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont responsables de ce pays.
Vendredi dernier, un des éléments des forces de l'ordre avait tiré sur des élèves qui manifestaient contre l'arrestation de leurs camarades de classe. Deux élèves ont été blessés. Le dernier vendredi du mois de mai, 337 élèves de deux établissements de la zone de Ruziba, en commune de Moura, province de Bujumbura, avaient été renvoyés pour outrage au chef d'État pour le même délit. Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le groupe État islamique est en ce moment pris par deux côtés dans la province de Raqqa en Syrie. D'une part par les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis et de l'autre par l'armée syrienne appuyée par la Russie. Ces opérations vont-elles aider à faire perdre du terrain à Daesh ? Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Sami Aoun, professeur titulaire à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke. Il est aussi directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Sami Aoun.
L'État islamique n'est pas une armée hautement entraînée. Et il a quand même eu une certaine complicité, un certain appui où on ferme l'œil de la part de la Turquie. Il semble que ces points sont en train de se refermer sur lui. Il prend la retraite maintenant de ces régions sous la force, surtout des forces kurdes démocratiques, appuyées fortement et sérieusement par des stratèges américains.
Cette double offensive soulève-t-elle la question d'une coordination entre Moscou et Washington?
Oui, elle est bien évidente et manifeste, non pas depuis cette semaine, mais depuis quelques mois. Et il y a de la part de l'administration Obama une forme de sous-traitance pour Moscou et le président Poutine pour qu'il gère lui-même et administre lui-même la crise syrienne et atteindre un certain compromis politique.
Et face à l'affaiblissement de l'EI, qui dirigera les territoires bientôt perdus par les djihadistes? Cela posera-t-il problème entre forces gouvernementales et groupes rebelles anti-EI?
Oui, certainement. De un, il y a une avance quand même prépondérante des forces kurdes, surtout sous le parapluie américain, premièrement, mais aussi iranien et russe. Il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, pour les Américains, ils sont soit indécis, soit c'est pas clair. Est-ce qu'ils vont permettre une présence et un retour en force de l'armée pro-Assad? Parce que si jamais ils le font, à ce moment, ils peuvent antagoniser la Turquie à un niveau plus supérieur que d'habitude. Et aussi, ils peuvent antagoniser leurs alliés de principe qui sont les Saoudiens. Alors c'est pourquoi les Américains auront plus intérêt à donner une main libre aux Kurdes et non pas nécessairement au régime syrien actuel.
Professeur Sami Aoun, cofondateur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent de l'Université de Sherbrooke, il était en ligne de Montréal.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31 40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Toute bonne chose a une fin, Claire?
Tout à fait, c'est la fin de cette édition.
Et on doit remercier Michel Joseph qui a assuré la mise en onde de ce programme ce soir à la console. Nous avions notre ami Joe Gill, Thank You Joe, à la présentation. Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
Et il me reste qu'à vous dire, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos plus d'un million, Gabi, 1,25 million fans sur Facebook. Et oui, c'est nous, VOA Afrique. Donc maintenant, la conversation sur Facebook. Dites-nous, par exemple, ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le monde aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.